Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Parisien d'origine, Jean-Christophe s'est retrouvé un peu par hasard en Afrique australe il y a plus de 25 ans. En posant les pieds sur ce continent, Jean-Christophe a décidé d'y rester et d'explorer ses paysages sublimes et sauvages. Spécialiste du Botswana, de l'Afrique du Sud et de la Namibie, il a créé sa petite agence de voyage pour partager les beautés de l'Afrique. J'ai rencontré Jean-Christophe chez lui à Windhoek dans sa guest house. Devant nous sur la table, la carte, parce que c'est parti pour un road trip de quelques semaines dans ce pays qui offre une diversité des paysages absolument incroyable. Toi, Jean-Christophe, ça fait des années que tu es là ou que tu es en Afrique. Donc en fait, ce qui va nous intéresser dans cette émission, c'est de partager un peu ton histoire, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu choisisses de quitter la France? Parce qu'on va revenir un petit peu des années dans le passé. Et pourquoi est-ce que Jean-Christophe s'est dit un jour, tiens, j'ai envie peut-être de me mettre sur la route, et pourquoi l'Afrique? Donc revenir vraiment sur ton histoire, ton itinéraire personnel de voyageur pour cette émission Regard d'ailleurs.
Ok, bah bonjour à tous. Bienvenue à Windhoek, qui veut dire le coin du vent. En Namibie, donc la capitale de la Namibie, qui est un pays assez immense, peu peuplé, un peu plus de 3 millions d'habitants. Ben moi, ça fait 25 ans que je suis arrivé en Namibie, un peu par hasard. J'avais rien à y faire d'ailleurs. Je ne savais même pas où c'était la Namibie, pour être honnête. Et en fait, c'est venu un peu par hasard, chercher du travail. J'étais un pur Parisien, vraiment un pur Parisien, comme on dit. Donc pas tellement habitué à toute cette magnifique nature qu'on peut rencontrer en Afrique en général, et tout particulièrement en Namibie, qui est un pays quand même très peu développé et qui est carrément resté dans son jus initial. Donc voilà, ça fait 25 ans que je fais des safaris finalement, ça m'est tombé dessus. Et quand, si un jour vous avez l'occasion, la chance de venir dans cette région, j'englobe aussi le Botswana, le Zimbabwe, enfin toute l'Afrique australe, il y a énormément de choses à faire et surtout des super voyages. Vraiment, il ne faut pas avoir peur de venir en Afrique. Beaucoup de gens ont peur et s'imaginent que l'Afrique, c'est tout le bazar partout. Ben non, tous ces coins-là sont encore visitables et il faut en profiter.
Quand tu dis « ça m'est tombé dessus », moi je fais partie de ceux qui croient pas tellement au hasard. Ou alors j'aime bien l'expression qui dit que le hasard, c'est Dieu qui se déguise pour voyager incognito. Comment est-ce qu'on arrive là? Il y a quand même une histoire à la base. On n'est pas par hasard projeté comme ça, sorti du 15e parisien pour se retrouver ici, dans un des pays les plus ouverts au monde et les moins peuplés du monde, après la Mongolie.
Bah si, pourtant c'est comme ça que ça s'est passé. Franchement, j'avais rien à voir dans cette ville-là. Je travaillais à la télévision sur la 5 qui a fait faillite en 92. Et dans la foulée, en cherchant du travail, en attendant un nouveau travail à l'époque à Canal+, j'accompagnais des voyages tout simples en Europe pour le troisième âge, pour des scolaires, enfin des choses comme ça. Ce qui m'a amené en fait dans le milieu du tourisme et de rencontrer une personne qui cherchait quelqu'un pour le seconder pour des safaris en Namibie. Alors j'ai dit, écoutez, je vais regarder où c'est, mais a priori, ça peut m'intéresser. Vu que déjà que je ne sais pas grand-chose de ce pays, c'est déjà intéressant. Et c'est parti comme ça. Et puis après, tout s'est enchaîné. L'Afrique est née en moi, si je peux dire ça. C'est pas du tout mon milieu familial. C'est pas du tout... j'ai jamais vécu en Afrique avant. Et tout s'est enchaîné, il y avait du travail, on était dans des zones quand même assez pacifiques et sans problème. Et voilà, et je suis toujours là. C'est plus difficile en ce moment, forcément, mais c'est partout un peu la même histoire. Et donc, on va continuer l'aventure encore quelques années, même si le temps passe vite dans cette villa, dans cette magnifique villa.
Mais tu aurais très bien pu, après les safaris que tu as encadrés ici à 25 ans, retourner en Europe. Donc qu'est-ce qui fait que tu choisisses de rester vivre ici, en Afrique ?
Franchement, je m'imagine plus dans une vie en Europe. Alors, il faut quand même que je précise, ma femme et ma compagne et ma fille sont en France depuis déjà une dizaine d'années. Et elles viennent de temps en temps. Donc, je partage ma vie à 10 000 km de là, familiale, quoi. Et puis, franchement, l'intérêt toujours renouvelé de parcourir ces régions fait que j'ai pas envie de rentrer vraiment, quoi. Ou quand je rentre, il me manque quelque chose. Ce qui n'était pas le cas avant, bien sûr, mais c'est devenu comme ça. C'est né, en fait, en moi, toute cette Afrique.
organisé des safaris ici en Afrique. Alors si je ne me trompe pas, safari, je crois que c'est un mot Maasai qui veut dire voyage.
Voilà, exactement, ouais, c'est un mot Maasai. Alors ici, on n'est pas du tout dans les mêmes ethnies, hein, c'est des ethnies totalement différentes. Qui sont plus d'Afrique centrale que d'Afrique de l'Est, hein, qui ont migré vers le sud au fur et à mesure des siècles, puisque en fait ils ont été amenés à chercher d'autres pâturages, puis il y a eu des conflits aussi des fois ethniques, qui ont fait que certains groupes, comme les Zoulous, qui sont plus connus, ou les Ndébélé, enfin les gens de ces ethnies, sont venus s'installer petit à petit dans la partie sud de l'Afrique, où il n'y avait pas du tout de Bantous, si on peut résumer ça comme ça.
Oui, le mot Bantou, c'est le grand groupe ethnique qui va réunir donc les Zoulous, les Damari, les Herero.
Les Herero, les Ovambo en Namibie, les Shona au Zimbabwe, toutes les ethnies plus ou moins foncées, si on peut dire ça comme ça, viennent de l'Afrique centrale et principalement vers l'Afrique australe. Mais à l'époque, avant ces gens-là, avant la colonisation et l'arrivée des Blancs aussi, des Hollandais, notamment en Afrique du Sud, il y avait des gens qui habitaient là, hein, qu'on appelle vulgairement une partie d'eux les Bushman, mais plutôt qu'il faut appeler les San, qui vivaient en groupe nomade, et qui se déplaçaient en fonction de l'eau, en fonction du gibier, puisqu'en fait c'était des chasseurs-cueilleurs. Et il y avait aussi des gens, des Khoi, qui étaient d'origine hottentote, qui habitaient plutôt vers l'Afrique du Sud et qui étaient installés déjà là comme éleveurs. Donc il y avait différents groupes ethniques qui n'avaient pas grand-chose à voir les uns les autres, mais qui cohabitaient sans histoire, parce que vu l'immensité de ces régions, il n'y avait pas de problème de conflit de terre ou de richesses minières qui ont amené beaucoup de conflits après. Hein. Bien sûr, ça a été à l'origine de la colonisation britannique, principalement sur ces régions.
Alors, on a beaucoup entendu parler de l'apartheid pour l'Afrique du Sud avec les premiers colons hollandais, les Boers. On connaît très peu l'histoire de la Namibie, qui, elle, était une colonie allemande, je crois, mais qui a aussi eu son passé historique relativement lourd et impactant pour la population locale.
Oui, alors, la Namibie a été connue plus récemment par rapport à l'Afrique du Sud, parce que en fait il n'y avait pas du tout, c'était un désert, donc on appelait la côte namibienne la côte des squelettes, hein, c'est toujours un peu le nom d'un parc, et ce qui voulait dire qu'en fait quand on s'échouait, on n'avait aucune solution de trouver un habitant ou de l'eau ou quelque chose sur 2000 km à peu près de long. Et donc tout l'intérieur du pays était très difficile d'accès, il y avait très très peu d'habitants, essentiellement des San, des Hottentots sur la partie sud, l'ethnie Nama. Et petit à petit, par hasard, les Allemands ont eu des volontés d'avoir des colonies en Afrique. Hein. Il y a eu Zanzibar, il y a eu le Cameroun, enfin il y en a tout un tas. À une époque, à l'époque de Bismarck. Et ils sont venus en Namibie pour s'installer dans le sud de la Namibie pour faire un point de ravitaillement à Lüderitz. Et par hasard, quelques années plus tard, ils ont découvert des diamants dans cette partie sud de la Namibie, qui a occasionné une ruée et petit à petit une colonisation vers l'intérieur de la Namibie, jusqu'au parc des Tosha, où vous allez là-bas, vous allez voir un fort allemand de l'époque. Et ils ont contrôlé la Namibie jusqu'en 1418, où ils ont été défaits par les Anglais, les Sud-Africains, qui les ont défaits en Namibie, y compris le contrôle de la Namibie après. Donc c'est pas resté une colonie très longtemps allemande, hein, c'est resté un peu plus d'une vingtaine d'années. Et depuis, pendant longtemps, c'est resté une région d'Afrique du Sud. Jusqu'en 90, où la pression a fait que la Namibie a mérité son indépendance, puisqu'en fait, c'était provisoire. En 14-18, le mandat qu'avait donné la Société des Nations à l'Afrique du Sud de contrôler ces territoires. Mais bon, l'Afrique du Sud, exactement parce qu'il y avait le régime de l'apartheid, c'est quand même un pays très fermé et qui n'était pas très à l'écoute des autres pays du monde qui faisaient pression contre l'apartheid, mais aussi pour l'indépendance de la Namibie. Venez se greffer là-dessus tous les conflits Est-Ouest, l'Angola qui était plutôt communiste, soutenue par Cuba, la Chine et l'URSS, qui se battait contre la Namibie aussi, contre l'Afrique du Sud qui était la Namibie à l'époque. Donc il y a eu des conflits, des batailles assez difficiles et dures dans le nord du pays, qui ont laissé des traces toujours présentes, hein, chez beaucoup, puisqu'il y a des gens qui ont connu ces guerres jusqu'en 90, où on a signé la paix, en mars 90. Alors, il y a eu une période, la période allemande a été aussi une période difficile, notamment pour quand ils ont colonisé les terres. Ils ont essayé de s'arranger au début, de négocier, puis finalement, ça ça a dégénéré et ils sont partis dans des guerres et un génocide qui a été reconnu par l'Allemagne il n'y a pas si longtemps. Finalement, quand même, un génocide qui date de 1904-1908, dans cette période. Donc où là, ils ont tué une grosse partie de la population Nama du Sud et la population Herero en majorité. À peu près 60% de cette population a été décimée. Donc du coup, ça a changé aussi le rapport des populations, des ethnies entre eux, puisqu'à l'époque, les Herero étaient majoritaires dans le pays. Et c'est devenu maintenant les Ovambo, l'ethnie du nord des Tosha, qui est devenue majoritaire, qui contrôle beaucoup du pouvoir économique et politique de la Namibie. Voilà, donc c'est grosso modo, si on peut en accélérer, expliquer ça comme ça. Mais bon, c'est pas un pays qui a une histoire très très riche, puisque en fait, la colonisation s'est faite plutôt à la fin des années 1800, à partir de l'Afrique du Sud, avec les bourgs, les fameux bourgs, les paysans sud-africains, qui ont migré aussi en partie vers la Namibie. Donc du coup, c'est resté... Alors maintenant, on est dans un régime plutôt politique stable, avec ses problèmes comme partout en Afrique, que je ne veux pas détailler parce qu'on s'imagine bien ce que c'est. Et c'est un parti qui domine la vie politique depuis 90, hein, depuis 30 ans. Et qui semble être en difficulté maintenant d'un point de vue politique et commencer à perdre du terrain, et notamment la gestion des villes comme Windhoek, qui viennent de perdre récemment, Walvis Bay, Swakop Moon, enfin toutes les grosses villes sont passées dans l'opposition, ce qui était quand même un événement assez impressionnant l'année dernière. Donc maintenant on est dans une nouvelle page de la Namibie par rapport à ça.
Regarde ailleurs. C'est rare d'ailleurs.
Regarde d'ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
On pourrait en revenir plutôt sur le côté culturel et historique. Donc on a bien compris, en Namibie, il y a plusieurs peuples. Tu me parlais des San, des Herero, des Damari, des Ovambo, je crois. Qu'en est-il aujourd'hui de ces peuples? Est-ce qu'ils ont réussi à perdurer, garder leurs traditions? Est-ce qu'il y a toujours cette notion de, quand on pense aux San, donc tu disais d'une manière péjorative, appeler les Bushman, donc des chasseurs-cueilleurs, nomades. Est-ce qu'on a encore ce mode de vie qui finalement est beaucoup fantasmé par les touristes ou par l'occidental?
Oui, alors pour quand même préciser, tous les peuples vivant en Namibie ne sont pas d'origine bantoue, hein, notamment les San, les Nama, et d'autres, les Allemands bien sûr, mais c'est aussi une ethnie namibienne, hein, les gens d'origine allemande ou africaneurs, donc ne sont pas d'origine bantoue. Par contre, la plupart ont pris un mode de vie moderne. Il reste encore quelques San dans la partie est de la Namibie, dans une région qu'on appelle spécifiquement le Bushmanland, qui est à la frontière du Botswana, donc totalement à l'est, où les gens, certains, vivent encore de manière traditionnelle, hein, ont l'autorisation de chasser, de cueillir et de se débrouiller comme ça pour vivre. Et par contre, c'est les 80% du territoire namibien n'est plus du tout fréquenté. Il n'y a plus de gens de cette origine. Hein. Ils sont plutôt dans l'est.
Mais ils ont encore l'autorisation, pas comme au Botswana, on essaie de les sédentariser, ils n'ont plus forcément le droit d'aller chasser la faune sauvage sous risque d'être pénalisés.
Oui, alors en Namibie, il y a une certaine tolérance dans certaines régions, très peu, hein, c'est limité essentiellement au Bushmanland. Par contre, au Botswana, effectivement, on les a parqués parce qu'on a voulu favoriser le tourisme haut de gamme, donc les endroits où, effectivement, par exemple, dans le Kalahari, il y avait des points d'eau, il n'y en a pas si tant que ça, on a construit des lodges et on les a déplacés sur des zones où même les touristes ne les voient pas, parce que aujourd'hui, ils sont entre deux mondes, ils sont encore dans leur monde en partie, mais aussi dans un monde moderne où ils consomment, ils ont notamment beaucoup d'alcool, qui fait qu'il y a des gros problèmes qui ne sont pas très agréables à rencontrer, bien sûr, hein, quand on a une image beaucoup plus positive et intéressante de ce peuple-là.
Mais c'est ça, j'aimerais qu'on parle un peu de ce fantasme de l'occidental ou du touriste qui vient à la rencontre de ces peuples. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la réalité sur le terrain? Parce que la Namibie est quand même un pays qui se développe touristiquement énormément. Toi, tu l'as vu sûrement sur 25 ans. Que recherche le tourisme? Quelle est la réalité? Qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à cette image d'épinal qu'on peut avoir sur les peuples dits racines ou peuples premiers?
Effectivement, hein, la Namibie, pour ça, est quand même un pays assez fréquenté aussi pour ses ethnies, hein, pas que ses paysages et ses safaris, et notamment avec des ethnies comme les Himba, qui sont restées dans leur total mode de vie traditionnel, hein, dans leur région, qui est dans le Kaokoland. Et alors les gens, effectivement, nous, on ne fait que passer. Il faudrait passer un mois avec eux pour vraiment rentrer dans la discussion, dans le vrai contact. Il y a un côté voyeurisme, il y a un côté qui est des fois peut être gênant. Même pour moi, le guide, les comportements des gens ne sont pas toujours adaptés. Alors ils veulent absolument voir ces Himba, ces ethnies en général. Et finalement, est-ce que c'est vraiment positif pour tout le monde? J'en sais rien. Enfin bon, ça rapporte quand même un peu d'argent à ces gens-là aussi. Après juger, les gens ont toujours tendance à juger, à dire voilà pourquoi ils évoluent pas, pourquoi ils restent comme ça. Bon, ils comprennent pas ça. Et effectivement, moi je pense qu'il faut laisser un peu ces gens dans leur vie et prendre le temps de les rencontrer. Bon, la plupart des tour opérateurs organisent des voyages très rapides parce qu'il y a beaucoup de choses à voir aussi. Hein, c'est pas non plus pour faire les choses mal, mais oublie de temps en temps quand même de passer un peu plus de temps avec les populations locales.
Donc le touriste, souvent en soif d'exotisme, veut voir ces populations, mais est-ce que ces populations souhaitent aussi voir des touristes pour être dans cette rencontre et dans cet échange culturel ou pas forcément?
Oui, aussi. Alors effectivement, ça dépend des ethnies. Certaines sont plus ouvertes que d'autres. Hein. Bon, bah, on ne peut pas forcer les choses, bien sûr. Hein. Les Himba ont plutôt une tendance à être un peu demandeurs d'argent, plutôt qu'avant on amenait de la nourriture. À une époque, quand il y avait peu de touristes, maintenant c'est devenu monétaire quand même, l'échange, beaucoup plus qu'avant. Donc les choses évoluent et ils se rendent bien compte qu'il y a un tel écart et une telle possibilité d'obtenir quelque chose des touristes pour faire des photos ou autre chose que finalement le contact reste assez limité. Donc l'idée est quand même d'essayer de rester au moins 2-3 jours dans le même camp ou le même lodge et puis de rencontrer les gens de manière un peu plus naturelle que juste aller payer pour faire des photos. Et c'est souvent comme ça malheureusement. Bon, c'est pas qu'en Namibie, hein, c'est assez général d'ailleurs. Et c'est spectaculaire, c'est vrai, ces ethnies, elles sont... je ne sais pas si vous allez aller chez les Himba ou si c'est prévu, c'est quand même... On dit, ouais, bon... Et à côté de ça, il y a le supermarché, il y a la pompe à essence, la banque, où ils sont aussi, hein, mais ils restent dans leur tradition, totalement.
Vraiment deux mondes, le monde traditionnel et le monde moderne qui se côtoient et on demande comment est-ce qu'on arrive à s'adapter parce qu'on fait un saut dans le temps. Comment tu perçois les choses ou comment est-ce qu'eux perçoivent ce clivage entre le mode de vie traditionnel qui reste choisi finalement et la mondialisation galopante qui est en train quelque part d'imposer des codes tellement différents de leurs propres codes sociaux et culturels?
Bah, pour eux, c'est quasi impossible de suivre la mondialisation à un rythme où nous, on est déjà développé et où on est connecté en permanence sur tout et n'importe quoi. Eux, bon, oui, ils sont équipés, ils ont des cell phones, ils ont, voilà, petit à petit, la génération qui arrive, c'est en train de changer. Mais ça met du temps et il y a forcément un écart qui est monstrueux. Alors, il y a quelques-uns qui sont assez brillants et qui arrivent à s'adapter à cette vie et à devenir des bons guides, j'en connais quelques-uns, mais bon, c'est quand même pas la majorité, c'est quand même difficile, il y a un écart qui est quasi impossible à... Et c'est aussi à nous de faire un chemin vers eux pour essayer d'être un peu plus à leur niveau, quoi, de ne pas chercher non plus à leur imposer des modes de vie. Alors c'est facile à dire, mais c'est vrai que c'est pas dans ce sens-là qu'on va, hein, à travers le tourisme notamment, hein, puisqu'on va dans des régions très reculées où il y avait personne, pas de visiteurs. Maintenant, c'est devenu un atout d'emmener des gens dans des coins totalement... fermé où il n'y avait pas grand monde. Au contraire, on vend plus de voyages comme ça que des voyages classiques. Hein. Et ça, effectivement, des fois, c'est pas simple, quoi. C'est pas évident de franchir ce pas et d'aller vers les autres non plus. Hein. Je comprends. Hein. Les gens, ils arrivent, bon, ils veulent faire des photos, ils veulent montrer des photos en rentrant. Enfin, ça reste le touriste moyen, c'est ça. Hein. C'est pas... Après, il y a des gens un peu plus intéressés qui cherchent un peu à comprendre et qui trouvent des guides ou des gens pour les accompagner dans leur voyage, hein, notamment en Namibie. Hein. Il y a des compagnies qui sont plutôt précises et intéressées par aussi l'échange entre le touriste et les clients et les ethnies.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
le tourisme, toi, ça fait 25 ans que t'es dans cette branche-là, dans cet univers-là. Donc le tourisme a ses limites, on le sait aujourd'hui. Il y a des impacts positifs, mais aussi des impacts négatifs par rapport à tout ce qui est peuple, racine ici en Namibie. Il y a une initiative qui a été mise en place qu'on appelle les Living Museums, où on peut effectivement aller voir ces ethnies qui font quelque part une forme de représentation, mais avec un impact moindre, en tout cas j'ai l'impression, parce que ça permet vraiment de générer une économie locale pour ceux qui vont jouer le jeu de partager leur culture et leurs traditions, et on les embête moins dans le sens où on ne débarque pas dans leur village. C'est plutôt des villages qui ont été conçus pour accueillir du public.
Oui, mais alors là, on rentre dans un des villages de démonstration, hein, ça s'appelle. Hein. Si vous allez en Afrique du Sud, vous allez dans le Zululand, vous avez que ça partout. Bon, c'est bien fait, c'est vrai qu'on comprend leur mode de vie, etc. Bon, à part le côté authentique, il n'y est plus trop. Mais tout ce qu'ils ont fait en Namibie, là, Living Museum, c'est quand même assez bien fait. C'est récent, hein, et c'est bien fait. C'est intéressant, ça reste un petit niveau. C'est pas quelque chose de où il y a des milliers de touristes qui passent avec des gros bus toute la journée, hein, comme ça peut l'être dans certains endroits. Et ça reste quand même très, très authentique, quand même, je pense, jusqu'à maintenant. Hein. Bon, combien de temps ça va durer? Il faut espérer que ça dure. Il faut aussi que les gens s'arrêtent, visiter, et puis laissent un petit peu d'argent pour que les projets continuent, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que souvent, il y a des budgets qui sont versés par l'Europe ou par d'autres moyens et qui sont vite dépensés. Et après, ben, il n'y a plus de suivi. Il y a plus, et beaucoup, beaucoup de projets comme ça disparaissent avec le temps, quoi. Ils ne vont pas plus loin, en fait, que le début du financement. Et ça, c'est un peu... Donc, mais Living Museum, oui, c'est pas mal.
J'aimerais bien que tu nous parles de ton expérience de 25 ans de vie en Namibie ou en Afrique sur l'évolution du tourisme.
Bah, déjà, les voies de communication ont progressé. Il y a de plus en plus de routes goudronnées. Hein. Je parle pour la Namibie, mais je pourrais parler pour toute l'Afrique australe. Les routes sont bien meilleures, les pistes sont pas mauvaises. Bon, il y a des périodes, elles sont pas très bonnes. Donc, c'est plus facile. On a des GPS, on a des tas de choses pour communiquer, des cell phones qu'on n'avait pas il y a 25 ans. Donc c'était bien dit, c'était difficile, et des fois des gens se perdaient, et on les retrouvait des mois plus tard, séchés dans la voiture, quoi, si je peux dire ça comme ça, c'est pas... Mais c'était vrai, hein, des gens se perdaient, ils tournaient, ils savaient plus où ils étaient, quoi. Tellement c'est immense, tellement on peut perdre l'orientation dans ces paysages. Et maintenant c'est quand même plus facile à ce niveau-là, bien sûr. C'est plus organisé aussi en termes de lodge, en termes d'approvisionnement, si on a besoin d'essence un peu partout, il y a des pompes. Bon, ça a quand même très évolué. Hein. Bon, maintenant, on est dans une période en ce moment qui est quand même assez particulière. Et beaucoup d'entre nous qui étaient là il y a longtemps retrouvent un peu cette période, puisqu'il n'y a personne, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne sur les routes. En général, effectivement, le Covid a détruit totalement le tourisme. Totalement. Des gens qui sont vraiment dans une précarité qui n'était pas prévisible il y a un peu plus d'un an, quoi. Enfin il y a un an même, et donc qui dure encore. Donc je ne sais pas comment ça va évoluer. Il y a beaucoup qui sont rentrés en France, de mes collègues guides, qui n'ont pas eu le choix, hein, et qui ont tout laissé. Hein. Mais bon, on espère pour eux que ça va repartir, quoi. Bon, on espère. Maintenant, hein, tout le monde est au même point, chez nous aussi, ça change tout le temps. Mais chez nous, il y a des soutiens économiques. Ici, il n'y a rien du tout. L'État n'a pas les moyens de soutenir quoi que ce soit. Donc, Alors, c'est plus difficile, franchement. Après l'évolution du tourisme, elle s'est faite vers plus de modernité, bien sûr, hein, à travers ça. Plus de lodges, plus d'organisation, de taxes aussi, bien sûr, hein, ça va avec. Hein. Et puis, sur l'Afrique australe, on n'a pas trop de problèmes pour passer les frontières. Il n'y a pas d'histoire de visa, c'est simple. C'est pas comme dans le reste de l'Afrique où des fois, il y a peu de corruption sur le bord des routes par la police ou des choses comme ça. Donc, c'est plus facile de se promener tout seul en self-drive, comme on dit, hein, de louer un véhicule et d'acheter un itinéraire qu'à l'époque où j'ai commencé. Ça ne se faisait pas à l'époque, il n'y avait quasiment pas, quoi. Maintenant, de plus en plus. Alors, est-ce que c'est bien qu'on arrive à le tourisme individuel totalement? Moi, je suis plutôt de l'ancienne génération. Hein. Mes petits coins de camping où j'allais dormir, maintenant, je trouve un gars installé avec son 4x4, avec ses tentes de toit. Des fois, ça m'énerve. Bon, c'est un peu ça, quand même, l'évolution générale, quoi.
En tout cas, 25 ans de tourisme de safari ici en Namibie, en Afrique australe. Devant nous, on a une carte de la Namibie, mais qui dit Namibie, tu parlais aussi d'Afrique australe et de safari, donc safari, les animaux. Quand on parle d'animaux, on pense souvent aux Big Five. Est-ce qu'on peut les retrouver ici en Namibie, les Big Five? Et d'ailleurs, qui sont-ils? Qu'est-ce que c'est que les Big Five?
Les Big Five, c'était plutôt un classement de chasseurs, en fait. C'était les big trophées, les plus beaux, les plus intéressants pour les chasseurs. C'est-à-dire le lion, le rhinocéros, l'éléphant, le buffle et le léopard. Hein, sont été classés. Ça ne veut pas dire que c'est les plus hauts, non. C'est plutôt un classement de chasseurs et un classement de trophées. Donc les Big Five, oui, en Namibie, on peut les voir. On peut plus les voir quand on va vers le Botswana, dans cette direction, les zones qui communiquent avec le Botswana dans le Caprivi. Il y a des parcs là qui sont où on peut voir tous les animaux. Un peu plus difficilement les rhinos, parce que là, il faudrait rentrer dans l'Okavango. Mais par contre, on peut les voir dans le parc d'Etosha. Dans le parc d'Etosha, par contre, on ne peut pas voir de buffle, parce qu'il n'y a pas suffisamment de végétation, et ce n'est pas une espèce qui s'est adaptée à ces coins-là. Donc on les trouve plutôt dans les parties plus humides, plus arrosées, où il y a plus de rivières, de marécages, vers le Caprivi, dans la région, ou sur le haut de l'Okavango, en fait.
Et Jean-Christophe, tu disais, parisien d'origine, citadin, pure souche, perdu un peu par hasard en Afrique il y a 25 ans. Et maintenant, 25 ans plus tard, est-ce qu'un retour à Paris est envisageable ou pas? Ou qu'est-ce que l'Afrique t'a apporté? Qu'est-ce que l'Afrique t'a appris? Comment est-ce que l'Afrique t'a transformé?
Ouais, sans doute être beaucoup plus ouvert sur la nature et ces choses-là. Quand on est né à Paris, on a toujours vécu à Paris, même si on est en vacances en France, dans certaines régions magnifiques. On est quand même dans une autre dimension et ça, ça nous imprègne. Je pense toute sa vie, hein, effectivement. Après, retourner à Paris, si je n'avais pas le choix, j'entrerais. Mais franchement, ce n'est pas dans les projets immédiats. Hein. En 25 ans, on mûrit aussi. On apprend un peu plus à être ouvert vers les gens qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes croyances. Même si on n'est pas croyant, on peut l'être un peu ici, parce que c'est une dimension, la spiritualité. Les gens sont très pratiquants ici, qui est tellement importante dans leur vie et donc forcément dans nos vies aussi autour, puisqu'on les côtoie en permanence, que ça aussi, ça m'a un peu ouvert l'esprit là-dessus, être un peu plus, moins critique, enfin, même s'il y a des choses à dire, bien sûr. Ensuite, maintenant, effectivement, à l'époque j'étais perdu, maintenant je ne le suis plus. Hein. Je ne sais pas combien j'ai fait de millions de kilomètres, mais beaucoup. Hein. Et je ne m'en lasse pas. Je m'en lasse pas. Franchement, bon, en plus, cette année Covid, on va dire, parce que j'ai terminé mon dernier safari en mars, l'année dernière en Zambie, on avait juste commencé. Ça m'a redonné finalement une petite envie de. Un manque que j'ai ressenti, même si des fois on peut être un peu quand même lassé de toujours faire les mêmes pistes, les mêmes routes. Et franchement, je conseille à tous de pouvoir un jour venir ici. Que ce soit en Namibie, au Botswana, enfin toute l'Afrique australe est magnifique, enfin toute l'Afrique en général, bien sûr, il y a des endroits où on ne peut pas y aller, mais bon.
On va terminer avec trois adjectifs que tu auras envie de poser, comme ça, en regardant cette carte ou en pensant à l'Afrique australe. Trois adjectifs qui, pour toi, représenteraient le mieux tes 25 dernières années passées ici, dans cette partie sud de l'Afrique.
Je dirais déjà, pour toute cette nature intouchée, en grosse partie, hein, sur l'Afrique australe, donc le terme intouché, en premier, chaleureux, puisque les rencontres quand même sont beaucoup très chaleureuses, et on n'a pas de problème d'agressivité ou de choses comme ça, les gens sont plutôt ouverts et accueillants un peu partout. Il y a des différences, bien sûr, entre les peuples, et l'espoir que les choses avancent et aillent dans le bon sens dans les années qui viennent, mais c'est pas facile. Hein. Franchement, beaucoup d'espoir.
Ce serait quoi le bon sens?
Le bon sens, ce serait que déjà les générations plus jeunes arrivent à prendre le pouvoir dans certains pays où quand même le pouvoir est dominé et contrôlé par une génération qui est quand même plutôt sur la fin. Et eux vont apporter plus de dynamisme et plus de peut-être de partage aussi entre eux, parce que là, vu la corruption, vu toutes ces histoires qu'on entend tous les jours, c'est dramatique, parce que bon, il y a des gens ils seront jamais ailleurs que dans leur vie initiale, quoi. Donc là, ça change, les gens sont plus ouverts avec Internet, communiquent beaucoup plus. Certains ont la chance de pouvoir aller étudier à l'étranger, un petit peu en Namibie d'ailleurs. Et ça va amener. Moi, je reste positif parce que malgré tout, ça va quand même amener des bonnes choses. Maintenant, il faut être positif, il faut se forcer un peu en Afrique des fois, hein, ça c'est sûr.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre.
sentir,
toucher. Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.